aussi.
Il y a des Français qui écrivent beaucoup, beaucoup plus avarement que moi là-dessus. L'impasse de la communication, puis les scolaires, sinon, l'opération du Québec. Je me dis, ben, j'espère qu'une fois qu'une ville écrit son article, qu'il y a le courage de prendre cet argent-là et d'acheter une mitrailleuse. Pour avoir la bonne solution au problème. Non, parce que c'est... Ils construisent de toutes pièces des... Ils construisent de toutes pièces des problèmes extrêmement complexes, évidemment. Puis ensuite, ils les démolissent. Un peu comme Coron fait. Ouais. Coron, il joue un peu avec la réalité.
Déjà, ils ont toujours choisi de le dire
carrément.
Ouais. Parce que c'est pas un bon style. On dit ça dans cette carrière, ce qu'ils ont donné, cette estime, ça va pas plus tard aussi. Moi, il y a toujours du monde de rien. Tu peux faire des tests comme Lise Bouvet ou tu peux rejoindre Lise Bouvet après, puis jaser avec, puis dire écoute, pourquoi t'as dit ça, puis.
Beaucoup de gratuit, puis oui, un genre de relation que j'aime pas, c'est quand un gars dit, en fait, plus parce que je suis lésé là-dedans, il dit, en parlant du ministère, bon, ministère en programme, aux médias, les médias communautaires sont là, il y a des liens entre le programme et le ministère a des liens avec, je sais pas, les États-Unis, ont des liens que avec ITT. Donc, les médias communautaires ont de la merde.
On devient réaliste.
Bon, ben, non, ils n'ont pas le droit de faire des.
Ouais, mais je veux dire, il faut expliquer un peu.
Non, c'est parce qu'il y en a qui ont tendance à simplifier quand c'est complexe. Quand c'est complexe, c'est complexe. Il faut tout prendre la réalité. Bref.
Moi,
je t'ai
envoyé de aussi, c'était. Ouais. Tu l'as vu. Quand t'as envie de jouer, je te comprends. Puis, dossier, c'est un dossier brouillon. J'avais écrit un livre. Ce que j'avais essayé de mettre là-dedans, c'était nos idées bout à bout. C'est un montage bout à bout. Puis ça ne se voulait pas quelque chose d'exhaustif. Maintenant, la recherche qu'on fait, c'est un peu plus sérieuse, un peu plus systématique, puis plus clair, puis qu'on veut aller faire la page. Puis on veut s'asseoir à côté. Puis s'il y a des choses qui ne vont pas, on va être capable de dire pourquoi ça a été écrit de même. Puis où est-ce que c'est qu'on va en aller. On veut publier ça en deux copies, donner aux médias communautaires, prendre le reste. Puis cette subvention-là, il y a au groupe. C'est un peu ça, on a une subvention pour faire ça. On est trois qui travaillent là-dedans. Vannevan
était au vidéographe en même temps, c'est ça. Je ne le replace pas, en tout cas, d'accord. Je dois l'avoir vu quelque part. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, l'objet de votre travail, c'est de faire une espèce de bilan, j'imagine?
C'est, d'une part, de prendre le dossier de Société Nouvelle.
On va prendre le dossier de Société
Nouvelle. Oui, mais pas tel quel. Tu sais, faire, en fait, l'état des communications au Québec, l'état des réseaux. De mettre tout ça en place, puis d'essayer de voir c'est quoi l'avenir de ça. C'est quoi l'inventaire de la quincaillerie de 1000 pouces au Québec? C'est quoi qu'on fait avec cet inventaire-là? C'est quoi qu'on pourrait faire? Si on avait un petit peu plus de moyens ou d'imagination. Je ne sais pas trop, là, on n'a pas interprété cette partie. Puis de faire une couple d'analyses sur certains groupes qu'on trouve corrects, puis qu'on privilégie. Et je te cache pas que moi, il y a certains groupes que je privilégie.
C'est important de faire des choix.
Ben oui, c'est important de faire des choix. Puis je pense qu'en toute bonhomie et honnêteté, moi je privilégie certains choix. Il y a une raison qui a été choquée, puis je privilégie certains choix. Ça, je l'ai dit clairement. La fois que j'ai pensé, je repense après, je pense que je ne repensais pas au jury de la même façon que je repensais la dernière fois.
Ah.
J'étais sur une tension, puis je pense à la sortie. Moi, ce que j'aimerais faire avec toi aujourd'hui, c'est de voir, par exemple, si tu connais, par exemple, le projet Québec, t'as-tu participé à ça?
Le projet quoi?
Québec.
Là, je n'ai pas participé. Non.
Le projet du groupe de...
J'ai un peu d'informations sur Québec, parce que je me suis intéressé. Alors que ça se déroule. aucune responsabilité là-dedans.
Bon. Alors, on va essayer de plutôt de voir ici, de ce côté-là, de voir le monde qui est un peu dedans à fond. Le groupe de recherche sociale à l'ONF.
Moi, j'arrive juste après le groupe de recherche sociale à l'ONF. J'arrive au moment où on pense à autre chose. Le groupe de recherche sociale est un lieu aussi expérimental. J'arrive juste après, je travaille avec Hortense Roy, qui est coordonnatrice du groupe de recherche sociale.
Au niveau du projet 80?
Le projet 80... Région 80?
Région
80. Région 80 s'insère dans Société Nouvelle. C'est le premier projet d'envergure de Société Nouvelle. Mais, on en a peut-être parlé avant moi. Recherche sociale, là, c'est un programme de l'ONF. Là-dessus, tu retrouves Robert Forget.
Ouais.
Tu retrouves Fernand Dansereau, Maurice Bulbulia et Michel Régnier. Alors, tu connais les dossiers de Dansereau à l'époque de la recherche sociale de Saint-Jérôme, puis d'autres. Là. Le dernier, c'était Tout le temps, tout le temps. J'ai participé au lancement de Tout le temps, tout le temps. J'ai été organisateur du lancement du film au Saint-Denis. Je ne sais pas si tu y étais.
Non.
Voilà, ça est venu. J'étais devant ça. C'était malheureusement fait puer. Voilà.
T'as-tu participé à ça?
J'ai pas participé à ça. Il y a c'est contre. C'est pas contre ma volonté. J'avais pas prévu ça. Mais on avait donné à, pas Michel Blondin, mais un grand gars qui travaillait au Conseil de développement social du temps, là. Conseil des œuvres, un gars qui a joué un grand rôle là-dedans, Pierre Pagé, on lui avait donné, combien, de centaines de billets, et lui faisait la distribution chez les groupes populaires. C'était prévu. Il a donné les billets, puis le film a provoqué une réaction, puis la réaction, ça a été ça. Ça m'a surpris, tu sais, je ne m'attendais pas à ça, parce que j'avais jamais trempé dans ces affaires-là. Je ne pouvais pas prévoir l'impact du film dans... Bon. Mais le film, c'était quand même ça. Il avait d'abord déjà été intitulé « Manger de la merde ». Parce que ça avait été bloqué. On a appelé tout le temps le film. Parce que ça se présentait mal, « Manger de la merde ». Alors, puis j'ai connu un petit peu les acteurs qui étaient dans le film parce que bon.
T'as-tu participé, Jean-Pierre, à la remise en question d'un fonds du cinéma à travers le groupe de recherche sociale? Parce qu'actuellement, à cette époque-là, on se posait la question de l'insertion sociale du cinéma.
Oui. Oui, ces questions-là ont été posées, oui. Et ça a été posé dans le cadre du groupe de recherche sociale, pour lequel je n'ai eu que très peu de contributions. Parce que moi, je suis arrivé là. À janvier 70, déjà le groupe de recherche sociale, je ne me souviens pas si ça existait encore. Ça existait uniquement en ceci, c'est qu'il restait des produits qui n'étaient pas lancés, tout le temps. Et on l'a lancé à ce moment-là. Mais pendant ce même hiver de janvier à avril, où j'avais été en stage à l'ONF, j'étais étudiant en organisation communautaire à Sherbrooke, et j'assistais au groupe de Société Nouvelle. C'était l'espèce de recherche sociale numéro 2. Et les gars qui ont fait la remise en question du cinéma, c'est Dansereau, c'est Forget. Et c'était aussi les autres.
Les thèmes de la remise en question, c'était pas que c'était quoi?
C'était une nouvelle utilisation du cinéma. On était tannés de faire des films avec des comédiens. Les gars voulaient... c'est le concept de film-outil qui se développait. Évidemment, ça va chercher loin, ça... aussi loin que les films que Raymond Garceau avait fait avec le BAEQ, je ne me souviens plus si c'est 10 ou 26 films qu'il avait fait. Ça, c'était nouveau, ça. C'était des films outils. Alors, on fabriquait des films, non, pour des pièces de théâtre en film, là, mais c'était des films qui se voulaient des instruments de travail pour les animateurs. Puis c'est ça qui était, jusqu'à un certain point, enfin, il y a autre chose, repris dans la recherche sociale. C'est de développer des films, d'une part, qui ne soient pas des films soit purement de fiction ou des films montés de toutes pièces, des films qui exprimaient des réalités d'une part, des films utilisables. C'est à ce titre-là que j'ai été engagé en septembre 70 dans l'équipe de Région 80. Région 80, c'est Maurice Bulbulian qui était coordonnateur.
Oui, je me souviens, le Portugais participait à ça.
Portugais était à Société Nouvelle,
Mais Région 80, c'était Maurice Bilbilian qui était le réalisateur du groupe. Et puis, tu avais le producteur Normand Cloutier. Parce qu'il y avait un producteur déjà en ce moment-là. Il était engagé, je pense, au mois d'août, Normand Cloutier.
C'était quoi les objectifs du Région 80 comme tel? On va te chasser croisé, là.
Non, mais c'est parce que. Un des objectifs, je ne me souviens pas de tous les détails de ça. Un des objectifs, en tout cas, c'était de fabriquer une vingtaine de films. Justement, des films outils qui s'inséreraient dans une problématique régionale. Alors, on a dit, bon, on va s'en aller là pour un an, on va essayer d'assumer la région. Enfin, autant qu'une équipe comme ça peut assumer une région. Essayons de faire des outils, des films outils d'intervention et d'animation. À partir des réalités socio-économiques d'une région, culturelle aussi, et puis des films qui pourraient être exportables pour l'ensemble du Québec, qui pourraient être utilisés dans d'autres régions du Québec. Mais ça, évidemment, dans la région 80, il y avait différents niveaux d'objectifs. Chacun avait ses objectifs aussi. Ce qui explique que la région 80, il faut quand même avouer là, qu'en pratique, ça n'a pas eu lieu comme prévu.
Non, il y avait un gros budget, ça.
Il y avait 200 000 $. Il y a eu à peu près deux films au maximum de sortie de ça, à moins qu'il y en ait d'autres depuis. Évidemment, pour la publicité, pour le comité interministériel Société Nouvelle Challenge for Change, ça a été bien le fun quand Normandin est né, parce que ça permettait de justifier Région 80. Pas lui dire qu'on avait manqué un peu notre coup.
Mais Région 80, c'est un projet dans le fond qui a failli mal tourner.
Ah oui, pour les souvenirs.
Ça a failli tomber à l'eau. Quand le producteur, Normand Cloutier, a décidé de mettre fin au projet pour tourner vers Normandin, explique-moi donc ça un peu. Comment ça s'est passé?
Bien, d'abord, je ne veux pas enlever le crédit à personne. Au contraire, Normand Cloutier, évidemment, par après, va expliquer la situation d'une façon différente que quand on la vivait. Évidemment, il l'a vécu à son niveau, puis moi, je ne l'ai peut-être pas vécu à son niveau, je le connaissais peut-être mal à l'époque. Mais c'était un moyen fouillé, le Jean 80, on ne savait pas où ça allait, puis je ne sais pas ce que quelqu'un savait. En septembre, octobre, ou plus tard en octobre, à peu près, il y avait quand même Maurice Bilbilian, qui était le réalisateur du groupe, puis il y avait une couple de personnes avec, qui pourraient être, par exemple, Claude Delorme, qui était ingénieur à ce moment-là, était l'ingénieur de l'équipe. Il y avait peut-être l'autre, le cinéaste, le caméraman, c'est-à-dire, bon, j'oublie le nom. C'est pas essentiel. Ils sont passés à Normandin, moi je n'étais pas là. Ils sont passés à Normandin, ils ont rencontré le propriétaire du club, Alfred Picard. Puis on a rencontré deux ou trois personnes rattachées à l'éducation qui devaient être Bélanger, qui était directeur de la commission scolaire.
Régionale Louis Mons.
Lui était à la commission scolaire régionale. Il était à la commission scolaire locale. Puis il a rencontré, il ne faudra pas que j'oublie son nom, c'est Gérard, un animateur qui est encore là, je pense qu'il est à multimédia maintenant. Lui, il était à la commission scolaire régionale, la régionale Louis-Aymon. Disons que c'est pas le Gérard. C'est pas Gérard, ça. C'était un gars qui avait un peu d'âge, plus de 50 ans, puis un gars bref, formé sur le tas. Et puis, ils ont eu l'idée ensemble de faire une semaine de télévision communautaire à Normandie. Il y avait un câble, puis Picard était le téléphone, en bretelle. Puis les animateurs, c'était pas des anciens de TVEC, ça. Ils savaient qu'on pouvait utiliser des magnétoscopes sur le câble. Alors, puis il y en avait dans le char, il y avait une station de l'ONF, puis il y avait des magnétoscopes dans le coffre, dans les arrières, quoi. Puis ils ont été branchés sur le câble, puis ça marchait. De là, ils ont pris la décision pour faire une semaine de télévision communautaire. Alors, Bilbilian a dit, alors, on les aide à faire une semaine de TVC, puis en tout cas, on fait un film là-dessus. Il n'était pas question de lancer la télévision communautaire au Québec. On fait un film là-dessus. Un film qui sera utilisé peut-être pour faire générer des projets ailleurs. et montrer comment, quand tu donnes aux pauvres les outils, juste pour voir. On ne savait pas ce que ça allait donner, de toute façon. Alors, on a tout pris le bagage, on avait 6 équipements complets vidéo, c'est-à-dire 6 caméras, puis à ce moment-là, c'était des porte-à-pac.
Première
génération. 6 porte à non, c'était les porte-à-pac, les premiers les vrais porte-à-pac. Oui, c'est la première génération. Puis il y avait des 36 qui étaient là. C'était pas des tables de montage, c'était des tables tout court. On a fait venir une table de montage à 1 pouce de ONF qui fait du montage. Il y avait des équipements ensemble. Alors les gars, pas tendu que me disent, puis on voulait du Montréal, bon. Organise une semaine de télévision communautaire qu'on a appelée la semaine intensive. Alors voilà. Et en même temps, là, c'est ça que tu veux savoir, je pense, en même temps, là, il y a les gars de Montréal, Cloutier, puis Dignard, le directeur de la production française, il se calait, qu'est-ce qu'on fait avec ça, Région 80, puis c'était mal parti, puis à l'intérieur de l'équipe, là, il n'y avait pas d'unité pente, et puis personnellement, je m'apprêtais à revenir à Montréal. Je n'étais pas intéressé de poursuivre. J'allais faire partie d'une équipe qui n'existait pas, et puis moi, je ne pouvais pas me retrouver dans une équipe aussi... enfin, fonctionnant de cette façon. Les cinéastes fonctionnent de même, d'accord. T'sais. La fin de semaine, c'était une brosse, puis le lendemain, calice, ça peut marcher au bout. Alors, t'arrives pour rencontrer les gars le matin, ils sont partis à Cabano, ou je sais pas où, calice, je manquais le bateau. Je n'ai plus rien à faire. T'sais. Et les gars avaient été amenés dans la région, les gars qui avaient laissé leur maison à Montréal, avaient été amenés dans la région, puis on leur avait dit, tu feras ton film toi aussi, tu sais, chacun, une équipe multidisciplinaire, où tout le monde pourra faire son film. Alors Michel Benoît devait faire son film, puis Claude Delorme devait faire son film. Les gars avaient des idées, puis c'est intéressant, parce que si tu réussis à faire ton premier film, tu peux en faire un deuxième après. Alors quand Normandin s'est présenté comme ça, alors moi j'ai été envoyé là pendant la semaine. Je devais au moins observer ce qui se passait. J'ai participé un petit peu. Je m'y suis intéressé. J'ai décidé de rester là. Enfin, j'ai proposé à Cloutier et à Hortense-Roy de rester à Normandin parce que je me suis fait pogner. Juste avant que ça commence, le gars, là, l'animateur de la régionale Louis-Aymon, ils m'ont fait venir chez Claude Ouellet et puis ils m'ont tassé. Et on dit, nous autres, on n'est pas intéressés. Est-ce que vous venez, comment on dit ça, que vous venez nous utiliser pour faire des films? Il dit des gars, des cinéastes, là, qui donnent 2 piastres à un gars pour le faire débouler en blanc coke, là, puis le film, là, il dit, vous ferez pas ça avec nous autres. il dit, tu vas me promettre que vous allez rester après, que vous allez nous laisser au moins de l'équipement après.
C'était juste comme...
T'as pas fou, tu sais. Ça, c'est ce qu'on appelle... Grand Maison écrivait l'autre jour dans le journal, là, la ruse des Québécois. Puis moi, ben, j'étais. On n'a pas de métier, ben, tu sais. J'étais genre dans le métier, quoi. Il m'a eu, puis j'ai dit, OK, je te promets qu'au moins un équipement va rester, t'sais. On va faire tout en moins possible, en tout cas.
C'est quoi ton rôle à ce moment-là?
À Normandin, moi, j'y allais plus comme observateur. On a voulu que je joue un rôle d'animateur dans la semaine, puis à un moment donné, j'ai décidé de ne pas me mêler de ça, que c'est leur expérience qu'il y a à faire. C'est pour une chambre au motel Balmoral. J'allais aussi pour faire des interviews, on l'a oublié. Des interviews pour le film. Interviewer les gens, les effets des interviews-là. Tu sais, quelque part, sur les bandes sonores à l'ONF, je les ai jamais entendus. Non, j'en ai entendu un certain nombre à un moment donné parce qu'on a failli monter le film. Puis le film n'a jamais été monté. Les images sont tournées. Ça n'a jamais été monté. C'est Claude Delorme qui avait été nommé réalisateur. Ça n'a jamais été plus loin. Alors j'allais aussi, moi c'est ça, comme animateur, intervieweur pour le film. Voilà. Alors j'ai interviewé tous ces gens-là qui étaient les principaux artisans, là, les promoteurs à Normandin du projet.
Les débuts de la télévision.
Alors, c'était bien bon pour Société Nouvelle. Je devrais tout dire ça, c'est ça. C'était aussi ça. C'était bien bon pour Société Nouvelle que ça arrive. Tu n'as pas prévu. D'ailleurs, comme quand tu réalises un film, souvent, ce type de film-là, c'est pas prévu que va être le dénouement. C'était d'abord de vivre avec ce qui se passait dans la région, puis. Bon. D'ailleurs, ça avait été accepté, ça, par le comité du programme à l'ONF. Il avait accepté cette démarche-là. C'est quand même une démarche fort acceptable. Si on voulait faire un. Il fallait pas faire le film avant. Faire le scénario avant d'aller au Lac-Saint-Jean. Hein? On devait faire des films. Alors, quand Normandin est né, bon, tout ça, Cloutier, il avait pensé à ça, la télévision communautaire, parce qu'il avait entendu parler, que c'était possible ici, puis il avait entendu parler de Thunder Bay, il avait fait des essais hein, avec Challenge for Change. Et puis, on a décidé à l'ONF que je reste là, et puis on a aussi décidé que je ramasse tout l'équipement vidéo qui restait là. Et puis, il y a eu un mois de relâche après la semaine intensive, puis ensuite, ça a repris d'une façon un peu plus permanente, quoi, avec toutes les difficultés qu'on peut imaginer sur ce vieux câble où on ne pouvait pas diffuser en direct.
Pourquoi?
Parce que le seul endroit où on pouvait diffuser en direct, c'était la tour. Le câble de Normandin, c'était trois tours, trois câbles. Il y en avait un Normandin, un Gérardville et un Saint-Thomas. Et puis, des gens voulaient que la télévision communautaire soit pour tout le secteur normand, c'est-à-dire les cinq paroisses. Alors, on faisait des vidéos, puis on allait passer le dimanche après dîner. On enfargeait le banc de neige avec le vidéo qui devait être gelé, puis une chaufferette qui était dessus. C'était ça. Ça a été uniquement au printemps où j'ai réussi à avoir, je crois, 500 pièces. Je me demande si on l'a déjà payé. En tout cas, Fred Picard avait accepté de relier sa tour de Normandin à l'école où était notre studio. Hein. On avait un local de production à l'école préfabriquée de la commission scolaire. Et puis on avait réussi à avoir un fil, puis là on a pu faire des émissions en direct. Mais ça a été à la fin du printemps. Et puis ça s'est terminé à l'été. Voilà, alors ils ont été très heureux que ça se poursuive parce que ça a été extrêmement publicisé. Ils ont envoyé Louis Martin et toute la gang ont suivi par après. Et ça permettait de récupérer, disons, pour le bénéfice de ceux-là. Ça permettait de récupérer un petit peu Région 80. Enfin, de dire que ce n'était pas un échec. Alors, il faut quand même situer Normandin dans Région 80. C'est né dans ce cadre-là. C'était pas prévu, puis heureusement qu'ils ont eu ça, sans ça, ils auraient été même pris. Non, excuse. D'aller au-delà de tes questions?
Non, c'est parfait. Par exemple, dans Normandin, comment ça s'est vécu? Comment t'as vécu ça, toi, la TVC? Je veux dire, comment ça se faisait des émissions? Comment ça se faisait avec le monde à cette époque-là? Comment ça se faisait ces émissions?
Alors, il faut peut-être distinguer... Bon, il y a eu la semaine intensive, ça a été une semaine intensive, ça c'est une semaine qui se planifie une semaine avant où on trouve là, suffisamment de complices puis qu'on réussisse à faire 15 heures de production, je crois. C'est 3 heures par jour, mais je ne suis pas sûr que ce soit 3 heures de production. Il y avait 3 heures de diffusion, en tout cas. Parce que je crois qu'on intercalait des bouts de petits métrages entre les émissions, parce qu'entre les deux, il fallait quand même changer chaise de place. Alors, on avait un projecteur de film sur le mur, une caméra à côté. Pendant ce temps-là, bon, on changeait de décor. On n'avait pas de décor, on changeait de monde. C'était une semaine de télévision miroir, hein, tu sais. Excepté peut-être deux, trois émissions qui étaient plus de dialogue, là, d'échange hein, sur deux, trois expériences éducatives ou du curé. C'était plutôt des reportages. Alors, comme un peu un grand nombre de télévisions communautaires commencent, ça commence un peu par promener la caméra dans la place. Mais pas d'une façon, pas comme ça, mais enfin, ils ont juste été voir le boulanger, puis ils ont été voir comment ça se fait un pain. Ah bon. Toutes sortes d'affaires comme ça. Il y avait un parc. Ensuite, il a été créé des espèces de structures de travail. À Normandin, qui n'ont pas été très opérationnels. Par exemple, on avait créé un comité de programmation, comme toutes les télévisions communautaires l'ont fait par après, je pense. Et pauvre comité de programmation, dans la télévision communautaire, il faut vraiment changer de concept. Le comité de programmation, c'est lui qui programme. Quand tu as de la place pour diffuser 15 heures par jour, programmation, il n'y a pas de rôle. C'est plutôt des comités d'animation qu'il faut avoir pour susciter des productions qu'un comité de programmation dans le sens classique. Le comité de programmation n'était pas actif. Ah. Bien sûr, parce qu'à un moment donné, il y a du monde qui arrive, comme ça se produisait, il voulait faire une émission.
Alors, on laissait n'importe qui faire n'importe quoi. Écoute, on n'a pas commencé à choisir. On n'aura pas eu beaucoup. Alors, il y a des gens qui s'intéressaient au secteur tout socio-culturel. Un pianiste passait dans la place, faisait une petite émission avec, chez le docteur, dans le salon du docteur. Puis, d'autres faisaient des émissions où on questionnait les budgets de la municipalité avec les échevins. Des émissions légèrement critiques. Et d'autres, c'était sur la politique en commission scolaire. D'autres, c'était sur des problèmes dans le secteur de l'éducation. Alors, ça a été une programmation extrêmement variée. Hein? Vraiment une programmation de télévision communautaire à sa première année. Personnellement, ça ne me satisfaisait pas. Moi, je sortais de l'université, et puis je venais de l'organisation communautaire, de l'animation. Tu sais, j'avais eu des beaux cours sur le changement social, j'avais lu là-dessus. Hein? Puis moi, je voyais la télévision communautaire, enfin, je voulais que la télévision communautaire soit un outil de changement. Ça, c'est pas facile. Enfin, c'est encore à l'étude, ces choses-là. Hein? C'est encore, ça se discute encore. C'est pas réglé, cette affaire-là. Et puis malheureusement, heureusement, moi j'étais de l'extérieur. J'ai quand même vécu passablement le milieu. Moi je viens d'un milieu rural comme Normandais. Alors je n'étais pas écarté là-dedans, je ne me sentais pas un gars de la ville. Cependant, il faut être prudent parce que quand tu es de l'extérieur, il y a uniquement tes enfants qui seront du milieu, puis encore. Ouais. Dans un milieu comme ça, au bout de 20 ans, tu n'es pas un gars de la place. Alors il faut être prudent. Et je sais bien que les autres promoteurs locaux de la télévision communautaire, animateurs et responsables, ne définissaient pas nécessairement la télévision communautaire comme moi j'aurais aimé qu'elle soit. Moi j'ai été relativement perdant là-dedans, j'ai essayé d'en faire des émissions. Moi je souhaitais que ce soit ce qu'on appelle une place publique, un lieu où les gens accepteraient de croiser le fer. Même sur des... pas même, mais surtout sur des problèmes vitaux. C'était une région, je me souviens de l'émission de Louis Martin, qui la posait plus dans les termes que je la posais que dans les termes dans lesquels ça s'est vraiment posé. Elle a fait un article, elle a fait un reportage. Et c'est une région en proie des problèmes sérieux, ça, cette région-là, qui est en train de construire une grosse polyvalente de 10 millions, puis qui ne pourra pas être utilisé plus que 10 ans parce que ça dépérit. La région se vide, comme toutes les régions rurales. C'est important. Il n'y a plus de jeunesse là. Donc, on s'est demandé à un moment donné, comment ça fait qu'on a tant de misère à faire des émissions. Les jeunes, là, entre 20 et 30 ans, ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là. Il y en a quelques-uns. Mais le meilleur des forces vives, là, je pense qu'il faut les situer beaucoup plus entre 20 et 30. Plus on a 35. Maintenant que j'ai 33. il n'était pas long. Mais ces questions-là, les gens ne les abordent pas spontanément et ils refusent même de les aborder. J'ai suscité des émissions sur la politique municipale, sur le regroupement municipal. Je me suis ramassé tout seul avec ces affaires-là. Enfin, légèrement seul. Mais j'avais quand même décidé de respecter le rythme de croisière des gens. Et bon, souvent je me définis comme un interventionniste, là, mais ça prend bien du temps avant que. Je suis pas très doctrinaire, tu sais. Si eux autres décident, là, maintenant ils veulent pas, là, ben c'est eux autres, ça. Puis j'ai pas à rire d'eux autres pour ça, ni à les blâmer, ni à leur faire des reproches. Ils veulent pas, ils veulent pas. Et puis ils ont des raisons pour vouloir. Des raisons qui sont bien plus au niveau des réflexes, parce que tu peux pas, évidemment, faire une télévision communautaire, et tu peux pas non plus obliger les gens à parler toujours de ces questions-là, puis des questions qui menacent leur survie. Enfin, c'est pas une question de... C'est pas la peste qui était dans le village, là, mais la question qui dépérit, on regardait les chiffres depuis les 10 dernières années, par exemple, ça dépérit. Mais les gens, ils ne veulent pas l'accepter, ça. Ils ne veulent pas l'accepter. Je me souviens de l'émission.
Tu as quand même soulevé dans certains de tes rapports des notions, par exemple, savoir comme le maire du village de Normandin, qui disait à un moment donné, si la TV communautaire continue à se débloquer comme ça, ça peut devenir un outil dangereux.
Alors, ça, c'était le maire d'Albanel. Lui avait compris, mais il était un peu paranoïaque. Il avait compris. Et je me souviens, c'est dans l'émission des 60, ça, je pense.
Ouais.
J'en avais peut-être fait état dans des textes à un moment donné.
Oui,
mais il disait, écoute, s'il y en avait partout de ça au Québec, bon, maintenant, dans 5 minutes, c'est la révolution. Ben d'abord, c'est pas vrai. Le monde ne sont pas si révolutionnaires que ça. Enfin, ça dépend de quel genre de révolution on parle. Tu sais, s'imaginait que tout ça était connecté ensemble, puis toi, tu allais péter. Moi, je ne suis pas si optimiste que ça. C'est pas le même que les choses se passent. Alors lui, ça lui faisait plus peur. Et de toute façon, c'est un véritable politicien, ça, ce monsieur-là. C'est la mère d'Albanel, un village qui n'était pas câblé. On voulait les embarquer. Et il y avait quand même des réflexes très sains. C'était à côté de Normandin, puis c'est la route de Gérardville. Ouais. Ça faisait une espèce de cathédrale à terre, ce fameux secteur normandin. Alors, moi, sa réaction, je vous l'explique comme ceci, c'est qu'il percevait la télévision communautaire comme un outil de... je ne sais pas si je devrais le dire, mais peut-être comme un outil de changement. Et un politicien, normalement, n'est pas d'accord avec ça, surtout quand c'est lui qui est maire du village. Pas d'accord pour qu'on développe des outils de contestation. Même si la télévision communautaire normandaine n'a pas été un outil de contestation. Mais il avait peut-être peur un peu des FLQIS là-dedans, tu sais.
C'était
70. C'était 70, tu sais. Puis il y avait du monde qui ont été apeurés. Peut-être pas autant qu'à Montréal. Ça fait rien. Ils l'ont vécu à leur façon. J'étais à Lac-Saint-Jean à ce moment-là. C'est peut-être la panique de cette époque-là. Le gars du corps de Normandin, dans une réunion de l'Association des câbles distributeurs à Québec, avait parlé de moi comme un FLQIS. C'est quand même, ça ne m'avait pas affecté, là. C'était quand même un petit peu symptomatique de ce qu'ils pressentaient, eux autres. Des gars de l'extérieur qui viennent ici, puis qui travaillent le soir, puis qui ne sont pas payés plus cher, puis qui travaillent les fins de semaine, parce qu'on avait travaillé pas mal fort. C'était pas fatigant, parce qu'on aimait ça. Sérieux, on avait donné pas mal, on a fait pas mal d'ouvrages. C'était inquiétant pour eux. Et c'est un peu dans ce sens-là que... Tu sais, puis on a toujours peur des importations. Puis je me souviens, quand j'étais jeune, on s'était assez fait charrier avec la propagande américaine, tu sais, communistes, puis les idées de l'extérieur. Duplessis a bien exploité ça, et c'est des gens de cette génération-là. Alors, on était un petit peu perçus comme ça. Pas par tous, mais il y en a qui ont perçu ça. Moi, je n'y peux rien, puis je pense pas d'avoir couru après. Enfin, voilà pour la réaction de Fernand Plourde, là. Où j'avais dit que le maire, si ça continuait comme ça, ça allait être la...
Ah ouais, si ouais, les choses pas... développent, ça pourrait être la révolution du matin, tu sais.
En fait, bon, c'est une réaction un petit peu de panique, qui à mon avis est à loin d'être juste.
Même les autres maires à ça, puis les corps municipaux en place, c'est un peu...
Non, la réaction, à moins que il n'y ait pas moyen de... À moins que j'ai rien compris de ce que les autres pensaient. Non, les autres maires, non. Dans le cas de Normandin, c'était un maire différent. Un gars était plombier dans la place, puis il avait accepté d'être maire. Et puis il faut quand même prendre ça avec un petit peu de sérieux. Il y a dans ces régions-là des fois des gars qui acceptent d'être échevin ou maire, mais en plus parce qu'ils sont pognés pour le faire. C'est à leur tour, puis des gars un peu serviables. T'sais. C'est pas pour un grand pouvoir personnel. T'sais. Parce que le pouvoir n'est pas tellement grand. Il y a quand même peut-être un trip personnel là-dedans. Mais en tout cas, j'avais pas l'impression que lui, il vivait comme ça. Il ne nous a jamais embêtés et il a toujours été relativement collaborateur quand on lui a demandé de participer à des émissions et d'expliquer des affaires de la municipalité et puis de répondre à des questions qui étaient posées. Le maire de Girardville, c'est M. Darvaux, c'est un industriel. Puis on ne l'a pas vu beaucoup. Saint-Thomas-d'Idyme, c'était Darvaux. Girardville, c'était un garagiste. Un gros gars, mais il n'a jamais manifesté de paranoïa, en tout cas, à mon avis, face à ça. À Saint-Edmond, c'était un marchand, je ne sais pas de son nom. C'était la paroisse du centre du secteur, ça. Et il était un peu sceptique, et ça l'intéressait moins, parce qu'il n'était même pas touché, il n'avait même pas le corps. Il a toujours été un peu réticent. Et puis la réaction de Plourde qui avait peur, évidemment, il faut quand même écouter son autre réaction, que ces gens-là, ils savaient que ça allait coûter de l'argent. Et puis ils nous demandaient comment ça va coûter. Ah, d'autres on disait ça ne coûtera rien, mais voyons, il s'agit que tout le monde s'y mette, ça coûtera rien. Et on n'était pas malhonnête, mais on aurait dû budgéter mieux. Bon, ça coûte quelque chose quand même. Même si tu as juste un porte-à-pac de temps en temps, il faut quand même le payer. Mais la commission scolaire est prête à mettre possiblement d'argent là-dedans. Mais on se disait, bon, si la commission scolaire peut être une personne, tu as sûr une petite permanence avec ça. On va lancer une fournée, c'est un animateur à plein temps ou à demi-temps. Puis on comptait sur des affaires comme ça, puis un petit peu d'argent de l'extérieur pour mettre ça en marche. Et aussi, à un moment donné, il y a eu des décisions à prendre à Normandin. On a travaillé longtemps pour avoir un animateur qu'on n'a jamais eu. On voulait un animateur parce que le CARM, c'était de la merde. Ça rejoignait 40 % de la population du secteur. Uniquement 40. Et ça ne touchait pas les rangs. Et il faut dire que les habitants, principales classes de cette région-là, les cultivateurs, sont dans les rangs. Ils n'étaient pas câblés. Puis on aurait aimé avec la coopérative puis le syndicat agricole du temps, c'était l'UCC, je pense, dans le temps. On aurait aimé faire des affaires. Mais il nous disait toujours, écoute, ça ne rejoint pas nos gens. Puis la coopérative agricole de Normandin, qui était une grosse coopérative, aurait été prête à mettre de l'argent un peu aussi, selon les démarches qu'on avait faites. Mais on ne les rejoignait pas. Alors on a dit, maudit, c'est vrai un émetteur. On a fait des démarches pour avoir un émetteur qu'on n'a jamais eu. Je comprends aujourd'hui, quand tu vois la difficulté que Saint-Jérôme a eu à avoir un émetteur, pourquoi, quand on avait été au CRTC, voir Terry, vice-président du CRTC, puis Jean-Jules Trudeau de Radio-Canada, je crois que ça revient un temps, un émetteur. Alors, ils nous ont fait marcher d'un à l'autre bien longtemps. J'avais appelé le sous-ministre des communications du temps à Québec, Yvon Côté, qui est juge maintenant à la revue des services publics. Il m'avait expliqué que c'était un peu compliqué, qu'il aimerait bien nous aider, mais que...
Jean-Pierre Lamont?
Voilà, c'est moi.
Il y a quelqu'un?
Ah, ben qu'il vienne. C'est de réussir à nous voir.
Vous devriez dégager la fumée d'ici.
Wow! Mon Dieu, ça réfléchit fort là-dedans.
Jean-Lucien Caron, il est directeur au service chez nous.
Bonjour.
Gérard Henry.
Salut.
Tu t'attends?
Non.
Il y a de la boucane en Nesto.
Je peux vous dire mon nom.
Mélange ta bobine entre-temps.
Ouais, ok.
Enfin, si tu veux.
Non, je suis un peu en avance.
Non, c'est bien.
Je passe au garage.
Ah oui, juste côté qui était à régie, puis tout ça. Il m'avait expliqué que, bon, ben, ça, il devait sortir un livre, je ne me souviens pas quelle couleur, puis il devait sortir le politique, parce que ce qui se passe aujourd'hui, ça se préparait à ce moment-là, c'était au printemps 71. Je ne me souviens pas, c'était peut-être à ce moment-là où le ministère a sorti son premier dossier là-dessus. Et il n'était pas compte ce qu'on faisait, mais il disait, attention, là, avant d'ériger une antenne là, nous autres, on est en train de faire des plans pour le Québec.
Que tu veux?
Oui, ils travaillaient. Le ministère des Communications avait fait dans ces années-là un plan pour brancher tout le Québec en réseau. Alors les micro-ondes, tout le kit, là, tout ça a été modifié ou arrêté. Tout ça s'est développé différemment. Les juridictions, on n'a pas rapatrié beaucoup de juridictions depuis le temps. Alors ça n'a pas été mis en opération, mais ça a été fait ce plan-là un jour pour avoir un réseau québécois dans tout le Québec, des antennes, puis c'était c'était Radio-Québec qui s'en venait, tout ça, mais pour être partout, ça coûtait pas très cher, ça coûtait 40 millions, enfin quelques milles d'autoroutes.
À Normandin, à cette époque-là, tu as eu la première phase, qui était une phase de 15 jours, après ça, la phase de réorganisation par le milieu. Comment ça s'est passé, la deuxième phase de l'organisation par le milieu? Ça s'est tout pris en main, ça. Puis, je veux dire, parallèlement à ça, comment l'ONF...
Moi, j'estime que Normandin ne s'est jamais pris en main. Et j'y suis probablement pour quelque chose. Je regarde à côté Saint-Félicien. Je reviendrai à Normandin. Saint-Félicien, ils ont vu ça, puis ils sont pas plus fous que les autres. C'est des gens qui s'organisent, ça. Ils sont fait fourrer dans bien des affaires, eux aussi. Dans des mines qui n'ont jamais été trouvées, puis des Kroger, puis des affaires de même. Mais il y avait des gars qui ont dit « Ouais, ça pourrait être le fun, c'est pour nous autres. » C'était un corps neuf à Saint-Félicien. Enfin, ils étaient en train de refaire le système de corps. Et puis, je ne sais pas si le câble distributeur était dans le coup. En tout cas, on avait rencontré deux gars qui étaient rattachés à l'éducation. Et puis, correct. On a été faire un soir à Normandin, à Saint-Félicien, pardon, une espèce de démonstration, quoi. On était à Saint-Félicien où ils s'étaient chargés de réunir du monde. Et puis, où on a essayé d'expliquer un peu ce que ça pouvait être la télévision communautaire, puisque c'était passé à Normandin. Et puis, dans la journée, j'avais pris le porte-à-pack avec une fille de Normandin qui était bien habile à la caméra, Marano. Puis, on avait fait le tour de Saint-Félicien. On avait été faire des petites interviews chez les gens. Puis, photographier la rue principale. Et puis, tu sais, on avait présenté ça le soir pour montrer que c'était des équipements récents et qui avaient certaines qualités. Et puis, on leur montrait des choses qui avaient été faites dans la journée, puis que, bon, c'était une espèce de petit reportage d'après-midi, j'avais travaillé après 4 heures là-dessus. C'est tout. Bon, tu lui expliques que si tu branches ça sur le câble, tu peux avoir un local pour travailler, pour faire des émissions en direct. Puis déjà, on bénéficiait de l'expérience de Normandin, parce qu'on a dégagé quand même certaines leçons avant Saint-Félicien. On pourra y revenir. Et il y a deux gars normandins, à Saint-Félicien, pardon, qui ont pris ça en main, Caroline, puis l'ont monté leur affaire. Puis les autres, ils se sont impliqués, puis le milieu s'est impliqué. Ça, déjà la première année. J'ai pas toutes les raisons de ça. À mon avis, Normandin...
As-tu le temps pas?
À mon avis, Normandin, pour un truc comme ça, c'était pas viable. Comme je l'ai dit tantôt, le câble, il ne rejoignait pas assez le monde. Il ne rejoignait pas les gens qui auraient peut-être dû être rejoints ou qui auraient peut-être été les plus dynamiques, à mon avis. Il manquait peut-être trop de monde, là. Je pense aux jeunes, là, un petit peu plus à Saint-Félicien, peut-être parce qu'il y avait des institutions d'enseignement un peu plus grosses, puis il y avait un peu plus de services. C'était une petite capitale. Mais Normandin, je pense, c'était un milieu un peu trop rural pour être capable d'opérer ça. Deuxièmement, c'est là qu'est été le laboratoire. À Normandin. Je ne sais pas si c'est parce que c'était le laboratoire, mais en tout cas, le fait qu'on est parti, le cheminement qu'on a suivi, et c'est pas les seules raisons. Il faut quand même les situer dans un ensemble de raisons. Ça a fait que Normandin ne l'a pas pris en main. En tout cas, moi, je peux te dire que j'ai poussé un maudit sur le monde pour que ça marche. Puis que j'ai dû jouer un rôle de suppléance. Évidemment, étant permanent, payé à plein temps, il y avait Maurice Villeneuve aussi qui l'était. Jusqu'à un certain point, on nuisait peut-être au milieu, on ne lui permettait pas de se démerder tout seul.
Mais l'ONF faisait pas un trip de voyage un peu là-dedans aussi?
Pas l'ONF. Mais l'ONF, peut-être à leur niveau. Mais au niveau local, je dirais pas. Au niveau local, ça se passait pas comme ça. Si Cloutier, s'il y a des gens à l'ONF qui ont trouvé ça le fun, puis ça leur a permis d'acquérir une crédibilité ou un prestige qu'ils n'avaient pas dans ce secteur-là avant, oui. Mais localement, ça se passait pas comme ça. Localement, de l'ONF, il y avait moins de monde, puis on a eu pendant 2-3 mois portugais. Portugais avait été envoyé un peu comme un gars qui avait du métier dans la réalisation, On avait dit, ben, maudit, il pourrait être une ressource pour aider des groupes à faire des émissions, les montrer comment s'organise, etc. Je ne suis pas capable d'apprécier sa juste valeur, sa contribution, mais il n'a pas joué le rôle que j'aurais souhaité qu'il joue à ce moment-là, et pour un tas de raisons. Il a donné un coup de main, plusieurs groupes, d'accord. Mais de toute façon, il était trop urbain pour travailler avec ces gens-là. Enfin, je ne vais pas embarquer là-dedans, parce que si je fais juste la fleurie, je risque d'être injuste aussi. Alors, je préfère passer par-dessus. Alors, le trip de l'ONF.
Le trip de l'ONF,
en tout cas, dans le milieu, ça c'était la monde, c'était de l'équipement. Puis on a engagé sur une base partielle deux gars du milieu qui étaient Claude Bon et Régent Lavoie. Oui. Il y avait un gars d'Albenel, il y avait un gars de Desbiens. C'était des gars pas mal de femmes, des gars qui avaient dans une vingtaine d'années passées, là, puis qui aimaient ça.
Comment le ONF s'est tiré normalement?
Bon, quand on a...
Des affaires?
Non, ça s'est pas fait avec fracas. Je dirais pas que ça s'est fait comme un retrait non plus, un retrait la nuit. Une chose qui était claire, en tout cas, c'est que moi, je restais pas là plus qu'à l'été. Et il me semble que je devais repartir au mois d'avril, mais j'ai accepté de partir au mois d'août. Parce que j'avais d'autres obligations, moi. J'avais laissé l'université. Je devais retourner continuer mes études. J'avais laissé l'université pour 8 mois, puis finalement, je l'ai laissé pour 16. Alors, j'ai laissé tomber l'université à un moment donné pour rester dans Normandie, parce que j'aimais ça aussi. Et puis, je trouvais ça plus important que d'aller à l'université. Je dirais que j'irai terminer plus tard. Alors, je devais partir en avril, puis je suis parti, si ma mémoire est bonne, vers le 20 août. Et ça avait été entendu, ça, depuis le début. Quand on travaillait avec le monde, puis qu'on organisait ça, c'est qu'on devait sortir, puis on devait sortir avec l'équipement aussi. Ça, c'était dit, puis c'était su. Quand c'était le temps de partir avec tout ça, ça n'a pas créé de problème parce que depuis une couple de mois, la télévision communautaire t'a fermé Normandin. On a fonctionné, si je me souviens bien, à peu près jusqu'en juin.
Fermé pourquoi?
Pour la période d'été. C'était les chalets. On s'est dit, on continue-t-il cet été ou on continue pas? En même temps, on voulait bien évaluer un peu ce qui s'était passé. Ça nous intéressait.
C'est à ce moment-là qu'il y a deux sociologues.
Les sociologues ont été contactés à l'automne, avec Henri Tremblay et Antoine Landry. Ils ont fait de l'observation au cours de l'hiver, au printemps, et à l'été, on s'est entendu pour un grand questionnaire auquel j'ai travaillé avec Henri Tremblay. Claude Bon aussi a travaillé. On a fait un gros questionnaire qui terminait un peu l'étude, qui était déposée évidemment plusieurs mois plus tard. Et la période d'été, bon, c'était la période du questionnaire et puis de la compilation de la programmation, puis de l'analyse de la programmation qui avait été diffusée là. Alors, c'était parce que ça ne nous apparaissait pas une bonne saison pour opérer et puis les ressources étaient un peu nombreuses. Je pense que ça a pris beaucoup de temps. L'animateur qui était resté au projet, Maurice Villeneuve, de la Commission scolaire régionale Louis-Mont, et il voulait pas repartir ça de toute pièce comme on l'avait supporté une bonne partie de l'année à bout de bras, tu sais. Il s'est dit... Attends, quand je suis parti, je me souviens, j'ai participé à ça, peut-être un mois avant de partir, la commission scolaire avait accepté d'acheter pour, je pense, 18 000 piastres d'équipement. Avec ça, on faisait un pool d'équipement qui était réparti à Delbeau, parce qu'il y a eu aussi Delbeau après Saint-Félicien, ou en même temps. Delbeau, Saint-Félicien... et Normandin, et éventuellement, il y avait les deux plus petits villages, la Dorée et la Bouchette, qui étaient intéressés, alors on se prêterait de l'équipement. Alors, comme ça, ce qu'elle a acheté cet équipement-là, bon, cette fois, ça avait été livré, bon, ça, c'est après moi que ça a été livré, par exemple. Mais si je me souviens bien, Villeneuve se disait, il va falloir qu'ils s'organisent et qu'ils repartent eux-mêmes. Et il y a eu un peu de production, de fait, si ma mémoire est bonne, à l'automne 71, ou à l'hiver, ou au printemps, je m'en souviens pas. Mais ça a retombé vite. Ça n'a pas été récupéré, ce projet-là, par le milieu, comme Selfus et Infélicien. Parce que le milieu n'a pas trouvé les dynamismes nécessaires ou pas ressenti de besoin de la même façon. C'est tout. C'est tout, c'est autre chose, évidemment.
C'est comment qu'il évaluerait ça pour 75
ou 75 ou 75
le lac Saint-Jean, le recul que tu as maintenant, toi, au ministère, puis...
Tout le lac Saint-Jean?
Oui, on était baissé dans le nord, comment qu'il évaluerait ça?
D'abord, j'ai pas suivi ça à la petite journée. Là. Mes contacts avec les groupes actuellement sont quand même passablement limités, non seulement au lac Saint-Jean, mais un peu partout. Bon, l'expérience du Normandin, l'évaluation que je t'en donne, que je te donnais tantôt, des causes de ci et de ça, évidemment, c'est des réflexions qui se précisent après coup, mais on était quand même à ce moment-là possiblement conscient de ce qui se passait parce qu'on le vivait. Et je disais, si je les rapporte de cette façon-là aujourd'hui, c'est parce que j'en suis pas mal sûr. Alors aujourd'hui, Normandin, c'est pas. 75, je me dis, c'était peut-être pas la meilleure place. C'était peut-être surtout pas la bonne place pour faire ça. Évidemment, l'effet que ça a eu des effets d'entraînement. Il y a eu du charriage avec Normandin. Quand tu regardes les films qui ont été faits par les Français, et même le Québec, les reportages, écoute, c'était pas la dixième merveille du monde, là, loin de là, là. Mais on a beaucoup charrié avec ça. Les gens du milieu du cinéma et des médias, on projetait aussi beaucoup dans cette expérience-là des bagues personnelles ou des rêves personnels. Et moi aussi, j'en ai projeté à l'époque. Et ça, je m'en rends compte, par exemple, plus par après.
Saint-Jérôme, serait-tu dans le fond la reprise, dans le fond, des metteurs qui n'avaient pas lieu à Normandin?
Jusqu'à un certain point, oui. Mais pas le projet dans toute sa définition-là. Le projet d'émetteur à Saint-Jérôme, c'est déjà très vieux. C'est au moins 2 ans.
Oui.
C'est au moins 2 ans, je pense, que ça se passe, oui. C'est pas plus. Alors, c'est certainement quoi, depuis l'été ou le printemps 73. Début 73. Alors, Robert Forgette, qui est quand même un des instigateurs de Saint-Jérôme dans sa version première, il n'était pas instigateur de Normandin, mais il a beaucoup observé ce qui s'est passé à Normandin. Il ne s'est jamais ingéré dans ce qui s'est passé là. Quand il participait à des rencontres, il est venu à quelques reprises. C'était un gars qui questionnait, qui observait. Puis il récupérait ses observations pour le vidéographe qu'il mettait sur pied. Parce qu'il a vu ce qu'on a fait avec les porte-à-packs là-bas, qui nous cassaient des mains, puis qui était toujours à Montréal à part de ça, les maudits porte-à-packs à l'ONF. Pendant ce temps-là, il les gardait 3 mois à l'ONF en réparation. Et pendant ces 3 mois-là, évidemment, il y avait une journée où il les réparait, puis les 3 autres mois, il les passait à d'autres. Ça, ils ne nous le disaient pas, par exemple. Ils passaient l'équipement à d'autres groupes. Alors, ça leur permettait d'entretenir plusieurs projets en même temps. Mais moi, je pensais que l'équipement était en réparation, puis ça prenait bien du temps avant qu'il arrive. Tu peux être sûr, il y a des bouts de temps, on avait un porte-à-pack. Les autres étaient tout partis, tu sais, c'est arrivé, ça. On n'avait pas d'ingénieur, là.
J'ai vécu.
Tu l'as parmi les autres, il y a eu Dolbeau. Dolbeau, ça s'est développé différemment. Ce n'étaient pas des gens de l'éducation qui ont récupéré ça à l'origine, c'était plutôt des petites vedettes locales, Dolbeau. Des gars souliers vernis et plutôt des maîtres de cérémonie, là, comme on appelle. Là. C'est plutôt eux qui ont mis la main dessus à Dolbeau. Et puis des plus jeunes, des gens qui étaient peut-être un peu jeunes. Enfin, il y avait des 15-16 ans là-dedans. Puis avec ces bonhommes-là, je veux dire, c'était pas une équipe très très forte pour enraciner un projet dans le milieu. Il y avait aussi un conseil d'administration, comme tous les mots, un conseil d'administration. Puis on est pogné avec ces conseils d'administration-là qui ne jouent pas leur rôle. Il ne faudra pas non plus les blâmer parce que je pense que les structures de travail qui ont été mises sur pied à beaucoup d'endroits c'est pas des structures, c'est pas des structures propices au développement d'une télévision communautaire. On a cherché des modèles de travail, parce que c'est quand même un modèle d'organisation si on veut faire quelque chose. Sans ça, on part trois, puis c'est nous autres la télévision communautaire. Quand on veut impliquer du monde, ben, il faut aller en chercher quelques-uns. Donc, il faut confier des responsabilités. Alors, du financement... Alors, du financement, par exemple, ils sont jamais, ils n'ont jamais travaillé bien fort à Normandin pour aller en chercher. Il y en a eu. Il y a eu une campagne de financement à la fois chez nous, mais on s'est occupé en maudit aussi. À Delbeau, alors, comme je te dis, il n'y a plus rien, je pense, à Delbeau. Ils se sont fait littéralement fourrer par le câble distributeur après que j'étais là, l'année ou après, je pense. À ce que le câble distributeur faisait payer le groupe communautaire pour faire sa propre télévision locale. C'est le propriétaire de câble qui disait au petit gars qui était resté le seul, que quoi aller filmer, tu vas prendre ci, tu ne prendras pas ça, puis passe-moi le balai ici. Puis...
Yeah. Si on arrête un groupe pour la question de Normandin, Saint-Félicien, Delbeau, ça éclaire pas mal de choses.
Il y a Saint-Félicien qui a survécu.
Ouais.
Il y a quand même les deux autres, la Dorée et la Bouchette.
Avec le réseau régional aussi, je pense que ça peut aider.
Ouais. La Dorée et la Bouchette, puis il y a des débuts de concertation qui sont difficiles, mais qui vont peut-être s'établir entre le SCRAM qui est dans la région.
Ouais.
Ils ne s'établiront pas au niveau idéologique, ils vont s'établir au niveau programme précis où ils vont accepter de mettre des ressources ensemble parce qu'ils ont intérêt commun à faire un bout de chemin ensemble. C'est des collaborations difficiles dans cette région-là.
Mais ça reste qu'au niveau du CDMC, de toute façon, ouais. Ils sont régionalement regroupés puis ils doivent s'entendre pour envoyer des délégués. Alors là, ça force.
Avec tous les tiraillements que ça suppose.
Oui, mais ça force quand même
ah, oui.
Cette mise en ouais. commun de choses. Ouais.
Et ils ont fait des choses ensemble, puis ils ont signé des affaires ensemble. C'est un bon début.
Ouais.
Mais c'est pas nécessaire de toute façon qu'ils travaillent main dans la main. C'est pas nécessaire que tout le monde travaille ensemble.
C'est peut-être très dynamique qu'ils ne travaillent pas main dans la main aussi, je pense.
C'est possible.
Dans le contexte. Les montagnes aussi. Il y a toujours les montagnes. Hein, c'est du
riche. Voilà.
Expliquez ça géographiquement. Moi, le mec, tu me parles en deux, trois mots là, du vidéographe. Comment tu as vécu ça de l'avènement du vidéographe? Les objectifs de départ, puis les objectifs maintenant où ça s'en va. Tu me parlais la semaine passée que ça va à l'Université du Québec. Mais à partir du début, là, c'était quoi, d'après vous autres, le vidéographe, comment ça se passe?
Le vidéographe, ça serait peut-être aussi vieux que Normandin, mais quand ça a été présenté pour la première fois, c'était bloqué au comité du programme à l'ONF. Et c'est passé un peu plus tard, plusieurs mois plus tard. Ça a été représenté au comité du programme qui l'a accepté. Le vidéographe, concepteur de ça, c'est Robert Forger, enfin, qui a joué un rôle extrêmement grand là-dedans. Vidéographe, je ne dirais pas que ça n'a aucun rapport avec le restant des médias communautaires. Là, d'alors, si on parle des premières années, ça monte à l'automne 72, l'automne. C'est une version urbaine de l'accessibilité qui a été pensée par Robert Forger, puis d'autres qui se sont joints à l'équipe à un moment donné. Moi, je trouvais ça le fun. Je trouvais ça intéressant. Je veux dire, donc, je ne vais pas faire d'analyse trop non plus après coup, là, parce que bon, c'est facile et c'est complexe aussi. À l'époque, ça avait un certain caractère novateur, même un caractère novateur certain. Là. Avoir un lieu où il y a du monde qui pouvait produire des documents audiovisuels.
Ça avait un rôle aussi
à jouer. Ça avait un rôle à jouer. C'était le rôle de l'accessibilité en milieu urbain, je pense.
De Montréal, des syndicats qui pouvaient se parler.
Puis des groupes, des jeunes. Puis c'était défini beaucoup plus culturel que communautaire. Parce que communautaire en ville, on est fourré avec ça. Il faudrait quasiment changer nos concepts là, parce que. On va se pogner.
Alors, en ville, le communautaire attendu, je pense qu'on parle de politique, on parle de
culturel. Ouais. Oui, c'est ça. Alors, évidemment, un vidéographe a quand même su, moi je trouve ça bon. Il y en a aussi qui travaillent comme ça. Il faut avoir différents niveaux de langage. Sans ça, tu ne vis pas. Alors, quand c'était présenté à l'ONF, c'était pas un outil entre les mains de la CSN ou des gars de l'amiantose, tu sais. Hein? Bon. Mais quand tu mets ça sur la rue Saint-Denis, dans un contexte montréalais, il était à prévoir que ça pourrait servir pour des objectifs politiques. Je ne parle pas de politique partisane, mais que ça puisse être utilisé comme des outils de changement au niveau politique, au niveau syndical, etc. Je pensais d'ailleurs que les groupes dits de gauche en empareraient plus que ça. Je m'étais imaginé ça, mais il y a eu un mélange de tout ça, finalement. Alors, le vidéographe, ça, à mon avis, ça a innové pendant à peu près un an et demi, puis ça a connu des maudites crises desquelles il ne s'est pas encore remis. C'était des crises financières. Le vidéographe a laissé l'ONF, il devait avoir beaucoup d'argent du ministère. Il devait avoir 250 000 $ du ministère des Communications à l'origine, et il y a eu 150 000. Et il était déjà 100 000 dans le trou, parce qu'il y avait un budget de 250 000. Non, le vidéographe ne sera pas vendu à l'Université du Québec, je crois pas. Actuellement, il y a un projet de création d'un centre d'expérimentation média. On parlera de SEM pour abréger, là. Un centre d'expérimentation média qui sera sous l'égide du département des communications de l'UQAM, et lequel centre sera créé en collaboration avec Vidéographe, qui deviendra un lieu d'expérimentation et de recherche à différents niveaux, en matière d'accessibilité comme en matière technique. Et il y aura probablement le concours du ministère des Communications, du Conseil des Arts, puis éventuellement d'autres bailleurs de fonds. Mais c'est l'Université du Québec qui assumera le leadership du SEM, mais je ne crois pas que le vidéographe perde sa personnalité. Et d'ailleurs, on fait attention pour pas que l'UQAM achète ou avale le vidéographe, qui est une petite affaire, en comparaison de l'UQAM. Ouais. Et on est averti, puis tu peux être sûr que dans un contrat puis dans un protocole qu'il va avoir... Il est important, il est nécessaire à ce moment-ci que le vidéographe trouve une pierre d'angle un peu plus solide que celle qu'il a développée jusqu'à là.
Il a besoin de se renflouer, dans le
fond. Ben, c'est pas juste une question d'argent, là. C'est que la corporation sans but lucratif, vidéographe, là, il n'y a plus de recettes merveilleuses là-dedans. Ça vit de déficit en banqueroute. Et quand ils reçoivent l'argent, il est dépensé, puis elle doit... c'est extrêmement complexe. Et ça fait trop longtemps que ça dure comme ça. Il faut essayer de trouver d'autres accommodements ou d'autres formules pour que le vidéographe acquiert un petit peu plus de stabilité. Sans ça, de l'innovation, il n'en fera plus. Puis de la recherche, il n'en fera plus. Il peut bien opérer 16-04 et puis prêter du stock à du monde, mais il pourrait faire aussi beaucoup plus que ça. Alors, je ne peux pas quand même présager là, de la façon dont ça va se passer dans les détails. Là. Je t'ai dit un peu là, le cadre global. Le restant, c'est en négociation actuellement avec l'UQAM, avec le ministère chez nous, puis avec Vidéographe.
Okay.